BSR Apéro.
Jeanine Massard, elle est prix Schiller 1986 pour La Petite Monnaie des Jours. Elle est prix des écrivains vaudois 1993 pour Trois mariages. Prix de la Bibliothèque pour tous 1998 pour Ce qui reste de Katharina. Prix Édouard Rod 2002 pour Comme si je n'avais pas traversé l'été. Prix de littérature de la Fondation vaudoise pour la culture 2005 pour Le Jardin face à la France. Et quand on rencontre un parcours sans faute et une œuvre cohérente et magnifique comme celle de Jeanine Massard, 13 œuvres et des poussières, dont elle nous parlera de ce qui est en cours, parues de 1978 jusqu'à nos jours, qui sont des œuvres aussi qui sont nées un petit peu dans la précarité, étant donné qu'être écrivain en Suisse n'est pas particulièrement rémunérateur, il faut bien le savoir, j'en sais quelque chose aussi. Et voilà, donc on se dit que c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas aussi reconnue qu'elle devrait l'être, ça c'est mon point de vue, et je dis que moi je trouve que c'est une grande écrivain de littérature française, je le dis pas parce qu'elle mesure 1m73, qui en fait une géante dans sa génération, mais grâce à une fortement autobiographique et magnifiquement écrite qui la range dans une catégorie à part. Alors, ce BSR Apéro, il est intitulé « Quand l'imaginaire s'invite dans le réel ». Et donc, on va beaucoup parler de, au fond, la transmutation que fait Jeanine Massard d'une anecdote ou de quelque chose d'historique en roman et en fiction. Mm-hmm. Donc, voilà. Alors,
Bon, eh bien, je vais... En fait, l'imaginaire s'invite dans le réel, mais c'est, je dirais parfois que le réel a plus d'imagination que moi. C'est ça, il arrive, parfois il y a des espèces de trucs complètement dingues qu'on n'imaginerait pas, puis c'est vrai. Donc c'est un petit peu ça qui me titille l'imaginaire, je dirais. Mm-hmm. Alors bon, je vous remercie d'être là, et Sergio m'a présenté. J'aimerais revenir un petit peu sur mon parcours, parce que Deux secondes classes a été réédité récemment avec une préface de Sergio Bellus, n'est-ce pas ? Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce livre, c'est un petit peu... Derrière, il y a une histoire, c'est celle des prix littéraires. J'avais concouru pour le deuxième prix Nicole, et puis j'avais soumis ce texte. Et évidemment, il n'a pas été. Il était dans les Viennent ensuite, et il y avait une autre Viennent ensuite, c'était Rosemarie Pagnard. Et les deux lauréats, il y a eu un dénommé Dominique Burnat qui n'a écrit que le livre de nouvelles. Mm-hmm. Et ensuite de ça, il y avait Marie-Josée Piguet qui a encore fait 4 livres, et puis après plus rien. De sorte qu'avec Rosemarie Pagnard, quand on se voit, parce qu'elle a aussi un certain nombre de livres à son actif, on se dit, tu te souviens du prix Nicole? Donc, dans le fond, les deux viennent ensuite, ont fait quand même quelques bouquins, ont eu des prix quand même assez de reconnaissance. Et les deux premiers lauréats, c'était le deuxième prix Nicole d'ailleurs. Mm-hmm. Alors voilà, donc c'est peut-être l'imaginaire dans le réel ou l'humour naturel de l'existence. Hein. Des fois, il y a des trucs qui sont rigolos.
Excusez-moi, mais ce deux secondes classes, ça, vous pouvez le présenter un petit peu ?
Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, justement, la réédition m'a permis, parce que je n'ai évidemment pas trouvé d'éditeur en Suisse, parce que c'était un peu compliqué. C'est un livre qui est écrit presque en une phrase. Mm-hmm. C'est au rythme du train, des tac-à-tac-à. J'avais beaucoup voyagé à l'époque. Puis ça me plaisait d'écrire toutes sortes de... Ben voilà, on est dans des trains, puis il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui restent longtemps, on peut connaître un peu leur histoire. Il y a des choses bizarres, on était en pleine guerre froide, et une fois, il y avait un violoniste russe qu'on a retenu près d'une frontière, c'était sûrement un de ces gars qui choisissait la liberté. Donc, il y a, comme on disait alors, c'était dans les années 60-61, et c'était intéressant de voir tout ça en direct, finalement. Et puis peut-être que mon coup mon truc intéressant, ça a été de d'écrire ça au rythme du train, alors que j'ai écrit ça pendant les siestes de mon premier enfant. Donc d'une part, on était dormant, et d'autre part, on était actif. Donc là, Sergio Bellus l'avait lu, et puis après, je me suis approchée des éditions d'en bas. Pour qu'ils le republient, parce que je me disais que ça allait bien avec leur gamme. Et ça, c'est un fait que c'est une chose un peu étonnante.
Quoi. Oui, moi, j'avais beaucoup aimé ce livre, parce que justement, je trouvais que ce côté technique d'une nuit, dans un train de nuit qui rentre probablement de Yougoslavie ou de Grèce...
À partir d'un certain point, on se retrouvait tous. Par exemple, si on se retrouvait... par exemple, à Belgrade, il y en a qui revenaient de Grèce, il y en a qui revenaient de la mer Noire. Il y avait des jonctions, puis évidemment, c'était 48 heures de train.
Et ben voilà.
Donc, puis quand on arrivait à Lausanne, il y avait ceux qui continuaient sur Paris après. Hein, parce qu'ils allaient prendre... Moi, je me souviens d'un couple d'Anglais, ils devaient rentrer sur l'Angleterre. Donc, ils avaient été à Athènes, donc ils avaient traversé tout ça, mais ils avaient encore 6 ou 8 heures de train, juste, puis après, ils devaient aller prendre leur bateau.
Voilà. Ouais.
Donc, c'était avant les avions, c'était vraiment le territoire. Et puis, c'est vrai qu'on pouvait voir de beaux paysages. Parfois, il y avait de l'herbe, mais d'autres fois, il y avait des choses assez, assez étonnantes. Alors, voilà, j'étais contente que ce livre un peu spécial... qui a rien d'un best-seller, donc, hein, mais soit puisse être réédité. Et puis, après, je vais parler... il y a deux autres livres, mais de La petite monnaie des jours, parce que là, c'est vraiment un livre qui a une histoire assez étonnante.
Oui, et qui a été donc prix Schiller en
86. Oui, et elle a été rééditée. Donc, elle a été en poche suisse. Elle a eu... après, elle a été rééditée en 2013. Et puis surtout, en fait, La petite monnaie des jours, j'aurais bien voulu que Bernard Kopisch la réédite, mais le problème, c'est que l'éditeur qui avait les droits, à partir du moment où le poche suisse, il n'y avait plus un seul poche suisse à vendre, vendable, et bien il fallait que l'éditeur d'origine donne son accord. Alors aux éditions d'en bas, ils m'ont dit on aimerait bien le faire. Et il y a quelque chose d'assez amusant. Bon, j'ai pu joindre aussi quelques réflexions sur la peine de mort parce que j'ai retrouvé un article sur Internet à propos de réflexions sur la peine de mort. On comprenait déjà que la peine de mort n'était pas une chose bénéfique. Et puis, c'était parce que dans la maison où j'habitais à Rolles, cette maison qui est le lieu du déroulement de La petite monnaie des jours, il y avait dans les caves avant, dans ce qui était les caves, les sous-sols, c'était des relais de chevaux. Mmh. Et puis, il y a eu une fois une bagarre entre deux domestiques, ceux qui s'occupaient des chevaux, qui étaient traités d'une manière comme les chevaux, c'est-à-dire qu'ils dormaient sur la paille. Hein. Et alors, il y en a un qui a tué l'autre, et puis il a eu un procès, on l'a condamné. Ça a été une l'avant-dernière. Après, l'autre, c'était sur un Moudon. Hein.
Voilà.
Je ne parle pas là des condamnations à mort qui ont été faites alors pendant la guerre. Mm-hmm. Ça, c'était des gens dont on estimait qu'ils étaient des traîtres. On les fusillait sans forme de procès. C'était à Berne que ça se passait. Tandis que ça, c'est vraiment une réflexion sur la peine de mort. Je trouvais assez calé.
Donc ça, vous l'avez rajouté
oui, après.
À l'édition de...
Oui, parce que je l'ai trouvé.
Ouais.
Et puis, ce qu'il y a de très drôle, c'est que il a été traduit en russe en 96, et j'ai été invité à une semaine en Russie. Donc on commençait à se libérer, et puis les éditeurs sont venus me trouver, et puis ils ont dit, oui, c'était comme ça qu'on vivait en Suisse il y a 50 ans, y a de l'espoir, parce que c'est exactement comme ça qu'on vit maintenant en Russie. Donc, vous voyez, c'était quelque chose d'assez étonnant de voir que ça correspondait à quelque chose chez eux.
C'était encore actuel.
Et puis, c'était ces deux éditeurs, c'était c'était recyclé parce qu'ils travaillaient, vous savez, il y avait cette cité de savants, c'était ceux qui avaient envoyé Gagarine dans l'espace, et ils étaient du côté, tout au nord, du côté près de la Finlande. Ils étaient là-bas, puis évidemment qu'avec la chute du système, il y avait plus de... C'était terminé, il fallait qu'ils retrouvent un travail. Alors, ils avaient décidé d'être un peu éditeurs, parce que les Russes aimaient lire, et puis voilà. Et quand je suis allée pour justement cette chose-là, j'ai aussi rencontré une dame qui était... qui avait été journaliste et qui était juive, et elle m'a dit que pendant le stalinisme, elle avait été envoyée dans un goulag au nord du cercle polaire arctique et c'était pas chauffé. Et elle a fait 5 ans. Parce que, paraît-il, elle avait eu trop de contacts avec les Américaines, avec des Américaines. Et alors, vous savez, il y avait des Américains, des Allemands qui avaient cru à la Révolution, puis qui étaient allés s'installer en Russie. Mais après, ils ont dû vraiment se débrouiller pour s'exfiltrer. Beaucoup se sont exfiltrés par la Finlande. Hein. Ouais. Les forêts sont énormes entre là. Moi, j'ai traversé l'endroit.
Cette partie-là.
Mmh. Et alors, elle a 50 goulags. Et après, on l'a libérée. On lui a dit, si jamais... vous allez dire un mot de ce qui s'est passé, vous en reprenez pour 5 ans.
Oh là là.
Alors, à partir du moment où il y a eu Gorbatchev et autres, elle a pu parler. Elle me rencontrait. Bon, elle savait bien que je n'allais pas aller clamer ça dans un journal, hein, cacheté. Donc, on voit que c'était quelque chose. Ils ont vécu des choses qu'ils n'osaient pas dire.
Ouais.
Ou bien alors, comme ce monsieur qui m'a dit qu'il avait... il faisait une nuit de train pour aller acheter un saucisson à Paris. À Moscou.
Ouais.
Parce qu'on ne trouvait pas de saucisson. Dans les épiceries de la campagne, il n'y avait que du pain et de la vodka.
Ah ouais.
Ça, c'était la nourriture du peuple, la révolution. Donc, c'est tout ça qui m'a fait vraiment... la petite monnaie des jours, cette traduction qui paraît au moment où il y a un peu plus de liberté, m'a fait rencontrer toutes sortes de gens. Et puis, je suis même allée une fois visiter un abri de nuit. Et puis, en fait, il y avait un gars qui devait rentrer. Parce que maintenant, du moment que la Russie ne voulait plus que des Russes, puis lui, il était sibérien.
Ah, oui,
il devait aller au fin fond de la Sibérie. Et puis, j'ai fait la bêtise devant la traductrice, qui était aussi de lui donner 15 roubles ou 15 dollars, je ne sais plus. Mm-hmm. Puis elle m'a dit, mais il ne fallait pas faire ça, il va se faire embêter ou il ira les boire.
Alors, justement, pour en venir à la petite monnaie des jours, je vais juste lire un petit passage parce que ça montre bien un peu votre travail par rapport à l'imaginaire et au réel. Alors, rien ne leur échappait, ni la longueur, ni l'arrondi, ni le plissé, ni les volants d'une jupe, ni la couleur, ni la forme d'un sac, ni l'âge de la dame portant dentelle, ni sa piété, ni son inconduite, ni la sobriété, ni l'alcoolisme, ni le vice, ni la vertu, ni la naissance, ni la mort. Prise entre les deux extrémités de la vie, elle trônait à leur fenêtre de chaque côté de la rue, omnisciente, omniprésente, veillant sur chacun le chignon serré, dévidant des rubans de paroles qui reliaient le passé au futur. Et les paroles des parcs passaient par les étalages de légumes, séjournaient sur les salades. La salade? Mais qu'est-ce que la salade pour qu'on doive payer la pièce 50 centimes quand un mari gagne 2 francs à l'heure? Cuisez de la salade et vous verrez ce qui vous reste. Juste de quoi boucher vos caries. Alors parlez-nous de ces parcs.
Oui, alors bon, les parcs, alors c'est l'imaginaire dans le réel.
Mm-hmm.
Ça, c'était ces commères. J'habitais dans une ville où il y avait une grande rue. Puis,
donc c'était un rôle, hein,
oui,
on est bien d'accord.
Et puis c'était, elles guettaient tout, elles étaient là, c'était les commères du coin. Et puis, elle savait tout. Hein. C'est elle qui décidait. La longueur de la jupe. Ah non, il ne faut pas comme ça. Donc, c'était assez, assez intéressant. Puis moi, je me suis dit que ça donnait des espèces... Ça donnait quelque chose, un ton un peu rigolo. Elle croyait... Moi, je crois qu'elle se prenait pour les gouvernantes du monde. Hein. Voilà, madame dit oui. Si on avait grandi dans une petite ville ou un village. Et voilà, donc c'était... Et puis ma mère me dit, mais c'est quoi ces paquets? Je savais pas ce que c'était les parcs. Elle me dit, mais c'est des paquets, on n'a jamais eu de paquets à rôle. Alors j'ai dit, que tu peux pas comprendre. C'est pour ça que j'ai mis... c'était le Glardon, M. Glardon, qui est décédé, qui m'avait dit, d'expliquer qui étaient ces parcs. Mm-hmm. Au début du bouquin, j'ai expliqué qui étaient ces parcs.
Oui, j'ai d'ailleurs le passage. Dans la mythologie, les parcs étaient des déesses qui avaient pour mission de filer la trame de la vie des mortels. Ouais. Elles étaient au nombre de trois, Clotho, Lachésis et Atropos. L'une tenait le fil, l'autre le filet, et la troisième le coupait.
Voilà.
C'était ça.
Donc c'était les autorités réelles du village. Et puis, maintenant, on passe à Terre-Noire d'Usine.
Oui.
Alors, Terre-Noire d'Usine, justement, à cause de la petite monnaie des jours, il y a des gens qui ont pris contact avec moi. Et il est réédité en poche par M. Campiche, parce qu'il était complètement épuisé. Et je dois dire, à l'époque, j'allais beaucoup à Yverdon, parce qu'il y avait, avec les éditions de Latiel, et j'allais... Et puis, on a pris contact avec moi. C'était des gens qui habitaient Sainte-Croix, qui avaient connu cette époque où vraiment les gens passaient de la terre à l'usine. Et ils m'ont dit, on aimerait bien qu'on parle un petit peu de cette époque. Alors bon, ben voilà, je suis montée quelques fois, j'ai enregistré. Après, on m'a mise en contact avec d'autres personnes. Monsieur Cornat m'a aussi raconté des choses, parce qu'il avait vu cette mutation exceptionnelle quand même. On a connu la vitesse du cheval, et puis on arrive tout d'un coup à une autre vitesse. Hein. Ouais. D'ailleurs, Terre-Noire d'Usine, je l'ai tapé sur un ordinateur, hein, donc pas sur...
Pas sur la machine à écrire verte avec les trous au milieu.
Non, la première que j'ai eue, c'était celle de mon grand-père gendarme. C'était, voilà, appuyé fort.
Ah oui.
Des années 20 ou 30, là. Fallait bien regarder.
Oui, alors c'est bien parce que c'est aussi un portrait social de cette époque avec une nouvelle classe sociale.
Voilà.
En tout cas, en particulier Yverdon. J'avais un petit
extrait. Non, à part ça, il n'y a pas eu qu'Yverdon, il y a eu d'autres endroits.
Voilà.
Hein,
ouais.
Parce que là, il y a eu quand même dans d'autres lieux. Vous prenez Sainte-Croix, c'était pareil,
oui,
là-bas.
Voilà.
Les gens ont dû apprendre sur le temps à s'organiser.
Ouais.
Hein, parce que, bon, y en a qui se faisaient. Qui comprenaient pas, ils se faisaient exploiter, c'était assez assez terrifiant.
Alors là, moi, j'avais gardé un extrait, c'est jamais mm-hmm. assez court, hein, de ce livre. Il faut quand même le dire que ça a l'air d'être une sorte de documentaire, mais en réalité, c'est vraiment un livre absolument génial à lire, qui a quand même coûté 4 ans d'écriture, d'après compris, hein, une documentation
précise.
Des
interviews de gens.
Voilà.
Ouais. Oh non, c'était un gros boulot. Hein. D'ailleurs, j'avais reçu une bourse pour ça.
Ah ben, tant mieux.
Je crois que l'État de Vaud m'avait donné une bourse. Puis donc, le projet était net, était clair. Hein.
Ouais, ouais.
Et puis, j'avais reçu une bourse. Et c'était... c'est vrai que c'était intéressant. Par exemple, il y a, à Yverdon, un endroit qu'on appelle le jardin japonais. Eh ben, c'était le lieu où on appelait la foire aux domestiques. Parce que le lendemain de Noël, il y avait une foire. Et puis, les valets de ferme qui voulaient changer de patron allaient là-bas. Et puis, ils cherchaient un nouveau patron.
Voilà.
Mais vous rendez compte? On vendait le bétail et puis les domestiques cherchaient à se louer. Ça nous paraît incroyable.
Absolument,
mais c'est vrai aussi que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que... On a vécu le siècle, le moment où tout s'est accéléré.
Voilà, ouais.
Hein? Bah, il n'y a qu'à voir Sainte-Croix, eux, ils étaient à cette vitesse-là. Puis tout d'un coup, ils sont arrivés, il y a eu Paillard, il y a eu l'électronique, il y a eu... et tout d'un coup, Yverdon aussi. Yverdon était... C'est les mêmes accélérations de civilisation. Et
oui,
c'est ça qui est intéressant.
En même temps, je trouve qu'il y a un vrai portrait de société. Là, j'avais pris un petit extrait.
Ouais.
Si les femmes allaient au café... Elle n'aurait jamais osé y mettre les pieds, pas même le dimanche après-midi. À quoi est-ce qu'elle s'occupait pendant ce temps? Elle ne se tournait pas les pouces. L'ouvrage ne manquait pas à la maison. Et en plus, il y avait la récupération qui prenait du temps. À nous aussi, les gamins. Dès qu'on avait un moment de libre, on allait à la cueillette dans le bois. Champignons, petits fruits, pives, bois mort. On ramassait tout ce qu'on pouvait. Voilà, moi, je trouve ça magnifique, parce que c'est vraiment une autre époque, avec la débrouille un petit peu à tous les niveaux, quoi.
Ouais. Est-ce qu'on passe à comme si je n'avais pas traversé les terres?
Oui, oui, oui.
Bon, alors, j'ai publié, après, il y a eu des 3 récits, 3 mariages qui ont été traduits en allemand. Bon, il y en a un qui plaisait à Francis Russert. On avait fait un... il avait un projet, c'est une énorme dame qui est amoureuse d'un petit ouais, turc.
J'ai un extrait, c'est jamais.
Ah ben t'as un extrait. Alors très bien.
J'avais beaucoup aimé ce.
Et puis, il aurait voulu faire un film. Alors bon, j'avais même été invitée avec quelqu'un. Quelqu'un qui avait une maison en Méditerranée, là au bord de. On avait pris l'avion jusqu'à Nice. Et puis il y avait Francis Russert, puis encore d'autres personnes, pour voir la possibilité. Puis après, j'avais même pris un cours d'écriture de scénario de film dans le cadre de la Société suisse des auteurs. Et puis finalement, une personne qui avait poussé, qui aurait bien voulu que ce film soit fait parce qu'il trouvait ça formidable, parce qu'en même temps, il y a tout le problème de la migration.
Mais c'est ça.
Et puis. Le rapport aux femmes, ouais. Qui est différent suivant les pays.
Elle est très touchante, cette nouvelle, parce que c'est aussi une femme qui a envie d'aimer de nouveau, et puis elle cherche par petites annonces.
Ouais.
Et alors moi, j'ai bien un extrait. Elle se déshabille devant son armoire à glace, constate bourrelet de graisse partout, chair éclatée par les cellules adipeuses, seins lourds, tombants, ravinés de vergetures. Exhiber cette catastrophe devant un homme de 40 ans, t'es folle ou quoi ? Et s'adressant au miroir, « Que peut chercher un homme auprès d'une femme aussi enveloppée que toi ?» L'image de sa mère, parce que la sienne était délicieusement dodue et douce. À moins qu'il ait eu une mère échalas, cassante et pointue, ou encore pas de mère du tout. Mais quoi alors ? Une masse à pétrir ? Bon, assez discutaillé ma fille, tu prends ton courage à deux mains et tu écris « Cher monsieur, je pèse 110 kilos, peut-être 120, j'aimerais bien faire votre connaissance malgré mes 51 ans et mes situations de désespérance passées, je me dis pourquoi pas de nouveau un homme, une amitié au moins. Amitié ? Le désir prend corps, tant pis pour l'époux des Capucines. »
C'est génial.
Voilà, alors bon, cette nouvelle m'a été inspirée, en fait, ce récit plutôt, par un jour, je rentrais de la plage, là j'étais à Lutry, et puis il y avait effectivement dans le bus une dame assez, très, 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 très en forme, et puis un petit gars qui était blotti vers elle. Puis ils avaient l'air, mais vraiment, ils transpiraient le bonheur. Et je me suis dit, tout d'un coup, l'idée est venue. Alors, donc j'avais pris un cours d'écriture de scénario de film. Puis à un moment donné, Francis Russert m'a dit, la personne qui voulait chercher de l'argent pour lui, j'ai pas été capable de trouver des sous pour faire ça.
Oui, c'est toujours la question du producteur.
Ça aurait été bien. Francis Russert, ouais. Il adorait ça. C'est une impossibilité. Ben voilà, c'est le réel et l'imaginaire qui se cognent. On ne peut pas imaginer ça. Moi, je n'aurais jamais imaginé un truc pareil si je n'avais pas vu cette sorte de tableau un dimanche vers 4-5 heures.
Oui, mais aussi dans l'écriture, vous faites vraiment... Moi, j'aime beaucoup ça, ce mélange entre un monologue intérieur, au fond, et une description plus objective. Et c'est entremêlé entre les deux, ce qui fait que ça donne quelque chose de très vivant.
Oui, alors donc ça, il a été traduit en allemand. Et ça m'a permis... d'aller dans, comme c'était à l'époque, c'était possible. J'ai eu plusieurs interventions dans des gymnases. Il y a eu Saint-Gall, il y a eu aussi Lucerne. Enfin,
c'était... En allemand, alors ?
Non, c'était dans les contes français.
Ah bon ?
Ah non, c'était pas en allemand. Oui, je pense.
Non, j'aurais admiré, c'est tout.
Non. C'était justement les problèmes de traduction. C'était des classes de français de gymnase de troisième année. Donc, ils lisaient probablement qu'ils avaient les deux. Ou bien ils ont lu que la traduction, ou bien ils ont lu les deux. Mais enfin, c'était la transposition d'une langue dans une autre. C'était cet aspect-là qui était. Est-ce que tu veux me dire quelque chose à propos de Katharina ou bien on passe
Alors, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce roman Katharina.
Oui.
Parce qu'au fond, c'est pendant cette même période dont vous allez parler un peu plus tard.
Oui.
Et je trouvais qu'il y avait là une espèce de travail sur l'imaginaire. Vous viviez une période extrêmement difficile.
Ah oui, alors là.
Et je trouve que ce désespoir que vous aviez là est transparaît dans ce roman.
Oui.
Mais c'est un vrai roman. Alors, je trouvais que c'était magnifique, ce travail que vous avez fait avec ça. C'est vraiment un roman que j'adore. Voilà, je vous donne un extrait, puis après, on passera au suivant.
Comme si j'avais pas
traversé. Alors, ce roman-là, je crois qu'on l'a à la bibliothèque, sauf erreur, s'appelle « Ce qui reste de Katharina ». Et alors voilà l'extrait. Hein. Il lui a fallu des années pour surmonter la mort attendue de son mari et on exigerait d'elle qu'elle se fasse une raison de la disparition de son fils. Elle y a joué toute sa vie à ce petit jeu du contentement, la seule philosophie inculquée par sa mère. Aujourd'hui, elle largue les amarres. Travail de deuil. Cette expression, elle la lit dans les journaux, l'entend lors des débats télévisés. Elle sait que chez elle, le deuil toujours dévira vers le regret. Elle pleurera ce fils qui a enluminé sa jeunesse. Elle pleurera l'adulte qu'il était devenu. Un adulte pour elle à jamais prisonnier de l'obscur. Les morts voient-ils les vivants? Ne sont-ils pas plus vivants que ceux qui se croient en vie? Désormais, elle vivra avec eux, avec les morts de sa vie. En attendant, combien d'aubes encore avant sa propre mort?
Donc, en fait, c'était... Bon, j'ai fait ce livre, mais en même temps, je venais de perdre mon mari et je vois qu'il est 97. Et 97, c'est le moment de la mort de ma fille.
Hein. Oui.
Alors là, on va passer à ce « Comme si je n'avais pas traversé l'été », qui a été cette épreuve que j'ai dû surmonter. Je pense que quand même l'écriture m'a sauvé. Hein. Ça, alors, je crois que je le dis partout, l'écriture m'a sauvé la vie. Donc... En 94, mon mari avait quelque chose, il s'affaiblissait, il avait une sorte de bouton, de truc noir derrière le genou. Il va à l'hôpital, d'abord il va chez le dermatologue, on le renvoie vers un autre dermatologue, puis après il va à l'hôpital, et puis ils mettent un bout de temps avant de trouver la cause. C'était un mélanome malin qui avait perdu sa couleur et qui, à l'intérieur du corps, et qui progressait, tenez-vous bien, en vitesse exponentielle, soit la vitesse des fusées. Et il m'annonce ça, il me dit ça, ils ont mis 14 jours, parce qu'il est entré début juillet, et il me dit... 14 jours de vie, pas plus. Et il est mort. Il me dit ça, c'était le jour du 14 juillet. Et en même temps, il meurt le 29. Il ne pouvait rien faire, c'était trop rapide. Il n'y avait aucun soin possible. Et alors, et puis je leur pose des questions pour ma fille, puisque ma fille était traitée depuis quelques années chez eux pour son cancer. Alors elle avait sarcome synovial qui avait perdu sa qui avait été difficile à identifier, mais c'était lent et bête. Hein. Bon, je me suis douté de quelque chose parce que quand elle a été à l'hôpital, c'était les petits trucs de l'après-midi au cantonal. Hein, c'était les petits trucs. Donc elle passait à 2 heures et puis on faisait juste une péridurale et puis c'était fini à 5 heures et puis voilà. Puis il n'y avait pas de téléphone. Puis tout d'un coup vers 7 heures. C'est le chef qui m'appelle, puis qui me dit, oui, c'est qu'il y a eu du sport, parce que c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était pas du tout un truc simple, c'était un cancer. Mais lent et bête, et qu'on pouvait facilement contourner. Donc le lent et bête, on l'a encore contourné pendant quelques années, et puis elle est décédée en 97. Donc vous voyez, c'est une histoire de fou, un scénario de fou. Mmh. D'ailleurs, comme si je n'avais pas traversé l'été, je le dis bien, c'est le scénario de fou par excellence.
Oui.
Hein? Un exponentiel, l'autre vitesse long et bête qu'on peut facilement traverser, contourner. Mais on est où, là? On est dans une espèce de folie. Et puis, de temps en temps, il y a un petit peu des moments où... Puis après, il a fallu aller porter les cendres de ma fille à Monument Valley.
Voilà.
Parce qu'elle avait dit, un jour, si je ne m'en tire pas, j'aimerais que tu ailles porter avec Martine, donc sa sœur, mes cendres à Monument Valley. Elle a fallu faire le voyage des cendres. Mmh. Et puis, je suis partie avec mon sac à dos. Et puis, j'ai retrouvé ma fille à Los Angeles. Et puis, on est allé, ils ont loué une voiture, parce qu'elle était avec son amie. On a loué une voiture, et puis on est monté sur Monument Valley. Et puis là... Moi, je ne savais plus quoi dire. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Alors, elle a pris le paquet, elle a lancé, puis elle a dit, bon voyage. sur cette terre rouge.
Hein, ouais.
Cette terre rouge.
Et puis donc le livre, vous l'avez écrit une année après, comme ça, ou
En quelle année? Donc les cendres, c'était c'était en 97. Ouais, il m'a fallu quand même. Deux, trois ans, j'ai pas écrit tout de suite.
Hein. Oui, puis vous avez vraiment fait un travail magnifique de transcription,
oui.
de transmutation de ça, de cette
la
douleur.
La transmutation, c'est le personnage du scénariste invisible, parce que je me suis dit, mais qui c'est qui me bricole
Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quand même votre humour là. Moi, il y a un passage que j'aime beaucoup. Alors, son personnage s'appelle Alia. Hein, vous avez lu Aldenis, non, vous pouvez.
Parce que c'est de l'autre côté.
Voilà.
J'ai vécu l'impression de vivre de l'autre côté.
Et alors, ce personnage dit, écrit, justement, « Le livre s'écrit lentement. Ouais. Alia saisit tous les prétextes pour éviter la feuille blanche. Elle relie les lignes déjà écrites, les rature, déplace les virgules, les susote, puis boit un café qu'elle déguste. Et si elle se faisait une confiture de toutes les lettres qui traînent ? Elle phrasote quelques mots qui tombent sur le papier.
Ouais, c'est ça,
elle les calligraphie comme si aucun temps ne lui était compté. Elle devrait mettre à cuire une tête de veau, ça ferait une présence sur la table, en face d'elle. » Elle s'enfermait alors dans la cuisine, pétrissait des pâtes et des farces de manière à optimiser le rapport pâte-farce. Ainsi parlait le billet de la rubrique culinaire d'un hebdomadaire distribué par une grande surface. Du pétrissage, il ressortait toujours quelque chose de jubilatoire. Un bavarois ou un gâteau au chocolat ou encore un strudel aux pommes. Ensuite, on dynamisait le rapport fait de champagne. C'est magnifique.
Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, je me dis, mais comment j'ai fait pour que ça sorte, ça? Je sais pas. Ça, c'est... Bon, après la mort de ma fille, la cadette... Alors, la cadette, bon, ben, moi, j'ai écrit. Et la cadette, elle a fait biologie. Après, elle a fait un doctorat en biologie. Au soir de sa soutenance de tête, elle m'a dit « Maman, j'ai fait toutes ces études pour essayer de comprendre ce qui est arrivé dans la famille. » Puis elle a eu, comme son... Elle avait bien travaillé. Elle a eu un post-doctorat de 3 ans à Berkeley. Donc, vous voyez qu'elle s'en est tirée par la science, essayer de comprendre, et puis moi, par l'écriture.
Ouais.
Mais c'est un fait que c'est... Des fois, je suis étonnée d'entendre, parce que j'ai de la peine à le relire, ce livre, mais en même temps, c'est vrai.
Oui, moi, je trouve très émouvant, parce qu'il y a en même temps cet humour un peu noir, et puis qui permet de se sauver, parce que c'est vraiment insupportable.
Ouais, bon, puis c'est à ce moment-là, alors que j'ai déménagé, puis je suis allée vivre 4 années à la rue Maubourget. Et à ce moment-là, à la rue Maubourget, il y avait tout le trafic de drogue.
Donc à Lausanne.
À Lausanne, oui. Oui, parce que il y a. Et puis j'ai entendu un appel de Jean-Marc Richard. Il a besoin de bénévoles pour la distribution de la soupe. Alors je suis allée, c'était pas loin. J'avais même pas besoin, je prenais juste mes clés. Donc. Et puis j'allais, puis ça, c'est vrai que j'ai vu des cas, puis je me suis dit, bon, ben finalement. Ta fille, elle est morte d'un cancer. Tandis que pour des parents, ça doit être encore bien plus effroyable de voir un gamin qui... Non, mais il y en a, c'était des squelettes.
Ah, ouais.
Et puis, fou. Il y en a qui arrivent en hurlant, puis ils devenaient maigres, etc. Je me dis, bon, ben là, on supporte ça. Ça restaurait quelque chose en moi, en me disant, ben, voilà, moi j'étais de fatalité, mais pour des parents, ça doit être vachement culpabilisant de voir leur fils ou leur fille qui sombre comme ça. Puis il y en avait qui avaient, il y avait une femme, elle faisait vraiment droguée, et qui faisait aussi des enfants, elle en faisait presque un chaque 18 mois.
Ah ouais.
Ils font quoi, ces enfants, après?
Ah ouais.
On doit les enlever. Donc, je voyais une espèce de misère que je n'aurais pas pu inventer. Mm-hmm. Et ça, je dois dire que...
Donc là, vous en avez fait un recueil de nouvelles, hein, c'est ça?
Oui, il y a eu dans quelques nouvelles. Il y a eu quelques nouvelles qui parlent de cette étape de la soupe. Parce qu'il y avait des moments de folie. Hein.
Oui, justement, j'ai un extrait là, je ne sais pas si vous me permettez. Alors, ça, ben, c'est celui sur ce. Attendez, je vous le dis. Hein. Tandis que le rythme de la distribution de nourriture dans la rue s'était quelque peu ralenti, un type en état second est monté de la rue Madeleine en apostrophant des interlocuteurs qui avaient quitté les lieux depuis longtemps. Il prévenait à la cantonade qu'il ne se droguait plus, faisait juste des mélanges, hashish, alcool, médicaments, qu'il résumait par H-Cool Dick. Rien que du légal, comme ça t'as plus d'ennuis avec personne. Il clamait d'un ton énervé « Tu suces pour un sugus !» Et cette plaisanterie devait revenir souvent dans son monologue à la manière d'un refrain, martelant les propos tenus par la suite. Il était possédé par un besoin tenace de dire, sans se soucier de choquer, « Il faut appeler un chat, s'égosillait-il. Jacques Brel est mon maître !» Il parlait d'une voix imprégnée de rage et de résignation. Il se prostituait rue de Genève, il vendait son corps, c'était devenu un produit qu'il offrait à des hommes. « Oh putain, je viens de me faire sucer par 3 clients consécutifs, faut que je me refasse de la soupe, et vite !»
Mais, vous voyez, c'était ça. C'est ça, des gens complètement fêlés. Mais en même temps, moi je vous dis, j'étais à la rue Montborgeais, alors je voyais souvent, hein, parce qu'il y avait entre la rue Montborgeais... et puis il y avait la rue des Terreaux, il y avait souvent une cour. Et dans la cour qui reliait ces deux rues, je voyais des fois des trafics de drogue. Hein.
Ouais.
Oui. J'ai vu une fois aussi un crêpage de chignon. Alors ça c'était assez étonnant, c'était deux femmes noires qui se crêpaient le chignon, puis il y avait deux autres qui surveillaient, puis qui comptaient. Alors je pense que j'ai l'impression que ça devait être tant de mèches, elles réglaient un compte. Hein, et puis c'était elle dit, ah non, ça suffit, il y a assez maintenant.
Ouais.
Je dois dire, c'est assez étonnant. C'était dans un endroit un peu caché, donc elles n'ont pas fait ça sur la rue, au coin. Mais je trouvais assez, je me disais, oui, ben voilà, c'est leur manière de régler des conflits.
Ah ouais. Mieux,
ça coûte moins cher qu'un tribunal, puis les cheveux, ça repousse. Hein.
Alors, je voudrais quand même dire que dans ce recueil de nouvelles, il y en a une qui s'appelle « L'aile des grands-ducs », que j'ai vraiment beaucoup aimée, et il me semble qu'il y a une touche autobiographique de nouveau. J'en avais pris un passage.
Ah ben, prends-moi.
Ouais. Ça se passe à Rolles.
Ah oui,
oui. L'usage était d'acheter les marchandises, de les faire inscrire sur un carnet, et de les payer à la fin du mois. Chacun réglait selon ses moyens. Les bourgeois envoyaient la bonne, les plus pauvres déposaient un acompte, l'air gêné. Ce geste leur valait un froncement de sourcils, un grognement, un « pouvait pas ajouter encore 5 francs ?» ou encore un haussement un peu méprisant de la lèvre supérieure avec un reproche masqué par « j'aime bien ça ». Tout le monde se connaissait, on se retrouvait à l'église, aux ventes de charité organisées par la paroisse, on se saluait et on pensait que les choses finiraient par s'arranger. Quand les soldes montaient haut et que les acomptes versés ne les abaissaient pas suffisamment, les adultes envoyaient leurs enfants acheter au carnet. Ils pensaient que les commerçants n'auraient pas le cœur à refuser du lait à un gamin, lui murmuraient des petits conseils. « Si tu le vois qui tire une drôle de tête, va plutôt à l'heure où il est occupé avec les paysans, elle est moins dure, elle. » Je le trouve magnifique, ce passage.
Et ce qu'il y a de curieux, c'est que ce laitier et sa femme se sont retrouvés dans la même maison de retraite que ma mère. Donc, ils avaient plus de 90 ans. Hein. Et puis, la dame vient un jour vers moi et me dit, oh, « Je suis contente d'avoir retrouvé votre maman. Je suis contente. » Et puis, un jour, son mari, ils sont allés faire leur sieste. J'allais manger vers ma mère une fois tous les deux semaines, comme ça. Et puis, il passe, il a gardé son air bourru, ce laitier. Et puis, il dit, au revoir, mesdames, bonne nuit. Puis, je dis, au revoir, monsieur, bon après-midi. Puis, il me dit, Tintin, il dit à sa femme, Tintin, on se fout de ma gueule. Je dis, bonne nuit. Et puis, on me répond, bon après-midi. Donc, voilà, c'était des gens à l'extrême bout de leur vie. Mais c'est vrai qu'ils avaient aussi beaucoup travaillé, tous. Hein.
Oui.
Puis il y avait ceux qui avaient eu la chance de réussir, et puis voilà.
Alors, on arrive à Jean Dulac, hein, je crois.
À Jean Dulac.
Oui.
Voilà. Alors, Jardin face à la France, bon, c'est un peu... c'est la reconstitution du jardin dans lequel j'ai grandi. C'est un livre très frais.
Oui.
Très frais. Et puis... c'est ma prise de conscience du monde, puis c'est évidemment pendant la guerre, je suis née en 39, alors 45-46, puis moi je me souviens très bien de ces avions qui passaient au-dessus de la Suisse,
ah oui.
Ils allaient sur Turin, pour bombarder Turin, et puis il y avait, on a su par la suite qu'il y avait les Suisses qui disaient « vous passez sur notre territoire », puis les Anglais qui répondaient « on sait ». Et puis les Suisses qui disaient « On sait que vous savez ». Puis les Anglais répondaient « On sait que vous savez que nous savons que vous savez ». Donc « We know that you know ». Une fois, j'ai été faire du service civil en Grèce. C'était, vous savez, on allait chez des, dans les montagnes grecques qui étaient très pauvres. Puis on faisait, on aidait à faire les travaux des champs. Ou bien il y avait les garçons qui aidaient pour faire une adduction d'eau. Et puis, il y avait des Anglais qui étaient là. Ils disaient, « Ah, vous venez du pays, we know that you know that we know that you know. » Et alors, je me suis dit, ça, je ne vais pas le rater. Ben, justement, dans les journaux de l'époque, on retrouve des regrets pour ces passages. Mais enfin, ils ont de nouveau passé. Puis voilà, quoi, de toute façon, c'était une politesse.
Alors justement, de fil en aiguille, on peut arriver à Jean Dulac, qui a un lien avec ça aussi.
A un lien avec ça, justement, parce que c'est un oncle et sa femme et son père qui ont aidé les résistants pendant la guerre. Et puis, les résistants, et surtout, il y avait tout un passage de juifs. Et donc, on a su ça, parce que c'est vraiment, vous savez, quand on dit qu'on est des taiseux, ben les taiseux, je peux vous dire, c'est des vrais taiseux. Hein. Le père, ces deux hommes, ils faisaient leur boulot, ça se passait pendant la nuit, parce que la pêche intéressante, c'est toujours la pêche de nuit, hein, au milieu du lac. Et puis c'est là qu'il y avait des gens qui étaient amenés, ou bien ils allaient les chercher du côté de Tenon aussi. Et... c'est une histoire. Ma cousine me raconte ça 2 ans avant sa mort. J'ai dit, mais tu aurais pu attendre encore plus. Hein. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt? Parce que ça aurait fait... ça aurait quand même été utile qu'on puisse parler un peu plus tôt, parce que justement, on avait tellement médit de la Suisse pendant la commission Bergier que ça aurait quand même...
Oui, ça aurait équilibré un peu.
Montrant qu'il y avait des gens qui avaient risqué, ils avaient risqué leur vie.
Absolument.
Ouais. Hein, puis celle des autres, bien sûr. Mais ça serait retrouvé en prison, eux aussi. Mais bon, c'était le silence. Et ils ont passé des gens pendant la guerre. Il y en avait aussi par la pointe d'Alamand. Alors, je ne sais pas moi exactement par où ils faisaient. Hein. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, comme ils avaient réussi petit à petit ils avaient leur matériel de pêche au bord de l'eau. Ils avaient à l'époque le hangar. Peut-être qu'ils pouvaient les cacher. Le restaurant n'avait pas encore été construit complètement. Hein. C'était une sorte de... Oui, c'était plutôt une cantine. Mm-hmm. Donc, ils pouvaient en cacher, mais il fallait faire attention parce qu'il y avait tout le temps des douaniers qui passaient des policiers le long de ce lac pendant les hostilités. Alors, voilà. Donc, ma cousine me raconte l'histoire, puis elle meurt. Alors, j'ai dû me débrouiller. C'est pour ça que j'ai mis roman, parce que, d'abord à cause de ses filles qui ont appris ça. Elle me remet un témoignage de reconnaissance, elle me met 2-3 trucs, et puis autrement, je peux vous dire, j'ai dû aller à la bibliothèque cantonale. Comme je connais la directrice, je lui ai dit, il faut que je puisse un peu aller voir la presse de 42, 43, 44, par là autour. Et puis, je vais voir. Mais c'est vrai que...
Bon, là, vous avez fait aussi un travail de romancière en reconstituant cette vie familiale un peu particulière.
Oui, parce qu'il y a un personnage important, c'est la mère. Mm-hmm. Et il y a une dame qui n'a pas pu venir aujourd'hui parce que, justement, elle... qui a connu les mêmes choses. Une dame Larpin, c'était la fille d'un... Elle avait exactement la même situation familiale. C'était aussi... Mais c'était de l'autre côté. C'était près du casino de Rolles. Et puis, la même situation, c'est-à-dire la grand-mère, mm-hmm. très autoritaire.
Voilà.
Sa mère à elle, qui ne pouvait qu'obéir. Et puis, les deux pêcheurs. Puis voilà, la pêche de nuit. Donc, mais on ne sait pas, probablement, elle me dit, mais mon père était vraiment convaincu, donc il a certainement dû passer des gens. Mais la seule, parce que quand ma cousine m'a dit, tu pourrais écrire cette histoire, je dis, écoute, alors il me faut des pièces. Hein. Mm. Puis c'est là qu'elle m'a remis ce témoignage de reconnaissance, qui était un peu effacé. Je crois que c'est Bernard Kopisch qui a réussi à le remettre.
Il venait d'où, ce témoignage?
C'était à Thonon, ça avait été signé. D'ailleurs, le ton est très ronflant. C'est vraiment, ils ont aidé les résistants de Grenoble,
voilà.
Cette région.
Hein, voilà.
C'est pour le lac. Alors, ils les ont passés pendant la nuit, mais c'est vrai que c'est assez ronflant, c'est assez étonnant.
C'est solennel, disons.
C'est en lit à haute voix, voilà, c'est solennel.
Ouais.
Alors, ils avaient reçu ça en 47, ils les ont reçus en 47, puis après, ils n'ont rien dit, et puis voilà. De toute façon, probablement que les femmes ne savaient rien du tout.
Ben oui. Hein.
Surtout la belle-mère de ma tante, parce que voilà. Elle aurait pas supporté. Non, pour elle, c'était pas possible. Hein.
Ouais, donc ça, c'est Berthe.
Berthe, voilà. Ouais. Ouais. Et puis il y a aussi une chose, c'est qu'il y a eu le mystère des gourdes. Mm-hmm. Ces gourdes dont on a, parce qu'il y avait toutes sortes de gourdes. Et puis mon oncle s'étonnait de voir ces gourdes qui remontaient des fonds. Il disait, mais
dans le lac,
ça vient. Mm-hmm. Et il y a un monsieur Vigoulette. Qui a écrit tout. Alors lui, il en a fait un roman sur cette même période. Alors lui, il montre carrément. Et oui, mon oncle avait fait une remarque. Il avait dit à quelque chose d'étonnant, parce que avant la guerre, il y avait deux pêcheurs très pauvres. Maintenant, c'est les plus riches.
Ouais.
Et puis ce monsieur Vigoulette, il montre aussi deux pêcheurs qui ont fait fortune. Et tout d'un coup, ils ont beaucoup d'argent, alors que le métier de la pêche, ça payait pas. Hein.
Non,
c'était difficile. D'ailleurs, ma tante et puis sa belle-mère devaient souvent prendre leur panier de poissons dans des feuilles, et puis elles allaient à Genève ou à Nyon pour vendre le poisson. Mm-hmm. Parce qu'à Genève, on appréciait le poisson frais. Quoi. Mm-hmm. Non, c'était un travail très dur. Ce monsieur Vigoulette, c'est Les Ombres du Léman. C'est un gros roman. Mm-hmm. C'est très romancé, mais on voit effectivement, il y a ces deux bons hommes qui sont là, et ils sont riches après la guerre, alors qu'ils étaient très, très, très pauvres. C'est un métier de pauvre.
Mais alors, quel est le lien avec les gourdes?
Probablement. Moi, je pense que ces gens prenaient des gourdes avec eux, parce qu'ils les débarquaient, puis après, bon, semble-t-il, vers la pointe d'Alaman, il y avait tout un point de passage. Puis après, ils filaient, ils devaient faire à peu près 30 km pour être...
Ah, donc c'était des passeurs
Ils avaient besoin de boire.
Ah, voilà, dans ce sens-là.
Et puis, l'eau des fontaines, elle était propre. Alors, ils pouvaient rester sans manger, mais ils avaient besoin de boire.
Voilà, d'accord.
Donc, je pense que c'était ces gourdes, c'était... en tout cas, mon oncle était très étonné. Donc, c'était leur provision de flotte.
Ouais.
L'eau du Léman, je ne sais pas si elle était encore buvable, mais l'eau des sources, l'eau des fontaines de village, il y en avait 2-3 par village. Hein.
Ouais.
Donc là, je pense que on est réduit à des hypothèses, puisqu'on n'a pas de preuves. Mais les gourdes, elles étaient là. D'ailleurs, le père de mon oncle a conservé une gourde dans sa cabane jusqu'à la fin.
Ouais.
Dans sa cabane, donc, où il faisait les filets, là, les restaurait les filets.
En tout cas, moi, dans ce roman, à part justement le fait qu'on voit un aspect de la Suisse qui est différent, et notamment tout d'un coup ces gens
qui aident vraiment,
puis qui prennent des risques pour ça, il y avait aussi cette ambiance un peu à la Hervé Bazin à l'intérieur de cette maison,
ouais,
qui est vraiment étouffante, surtout pour la fille, parce que pour elle, c'était horrible, elle n'avait pas à boire au chapitre. Il y avait
était complètement asservie. Mmh. Et puis... Et puis le père, son mari étaient tous soumis à cette femme.
Ouais.
Comme me disait ma cousine, mon grand-père était soumis à sa femme, mais mon père était soumis à son père.
Ouais.
C'était vraiment le petit quadrige, si vous voulez, familial.
Ouais.
C'est vrai qu'ils ont fait des choses utiles. Mais en même temps, voyez, il y a, pendant la guerre, quand le préfet de Thonon traverse parce qu'il y avait des fêtes lacustres, et ils viennent à cet endroit pour faire une fête. Moi, je me souviens de ces fêtes lacustres. On voyait des défilés avec des bateaux. Ils avaient testé un bateau, ces bateaux de sauvetage, à plusieurs rameurs. Vous savez, c'était assez intéressant. Alors... c'est lors de ces choses. Il y avait vraiment des contacts. Le préfet de Thonon, Madame Berthe étant très très jolie, eh bien,
donc la tyranne,
la
si
tyranne,
on peut dire.
Tyranno-maison, la tyranne domestique. Non, c'était pas drôle. Et ouais. Elle est morte, puis après, dès que le père est mort, ils ont gardé l'installation jusqu'à la mort du père, puis après, ils sont partis, ils ont vendu, ouais. Et puis ils sont allés à Genève, et lui, il a repris un magasin de journaux, tabac, des trucs comme ça, tabac, cigare, enfin.
Ouais. J'avais sélectionné un extrait. De Jean Dulac, et justement cette partie à l'intérieur, le fonctionnement de la maison du point de vue de la fille.
Cette dame qui est à l'autre bout, cette dame Larpin qui a pris contact avec moi, elle m'a dit qu'on avait la même atmosphère.
Ah ouais.
Et ça, la grand-mère, elle venait pas du... C'était pas une Suissesse, elle venait du Piémont, mais on parlait français aussi.
Ah oui, la partie...
Mais alors, elle criait, et c'était aussi un bistrot à l'autre bout de la ville où on mangeait de délicieux filets de perche maison.
Et du lac,
elles
en plus.
Elles avaient inventé des recettes, les dames. D'ailleurs, un jour, ma mère m'a dit, je vous ai fait des filets de perche façon guérivage.
Je vous lis l'extrait. Hein. À l'intérieur de la maison... Ce coin dont le fonctionnement échappait aux hommes, les jours se déroulaient entre les coups de balai de Berthe et le travail. Et si Florence, avant son mariage, avait eu quelques idées sur le rôle des femmes dans la société, elle les sentait absorbées, diluées même dans son quotidien bosseur. Mais mercenaire ne serait-il pas plus approprié ? Et tandis que Berthe jabotait de façon répétitive que ce restaurant c'était leurs économies et autant de travail acharné, de poissons pêchés et vendus au porte-à-porte, Florence soupirait. C'était elle, invisible pour la clientèle, confinée au fourneau, reconvertie en cendrillon moderne, qui faisait présentement les frais de l'opération. La patience n'était-elle qu'une vertu de femme ? Et toujours attendre que le salut vienne des autres, de celles et ceux dont elle croyait dépendre, n'était-ce pas là de la résignation ? Un jour, lançant vers elle son regard redoutable, Berthe l'avait poignardée en lui sifflant aux oreilles que son fils s'était mésallié. Quand le soir, Berthe au petit pied voyait sa belle-fille en train de broder pour se détendre, elle lui rappelait qu'il y avait du repassage en suspens. L'une serrait son fric quelque part dans la maison, l'autre serrait les dents. Ainsi vont les choses quand il faut s'incliner devant les cheveux blancs.
Voilà. Or, en fait, la belle-mère, elle s'était placée comme bonne,
ouais.
Hein, parce qu'ils n'avaient pas de formation. Et ma tante, elle avait une formation de maîtresse d'école enfantine.
Ah ouais, c'est
donc, c'était la plus cultivée des deux.
Mais,
donc,
oui,
mais
ouais.
c'était la soumission, l'âge, voilà.
Oui, puis alors, Jean Dulac a été vraiment un best-seller. Et en plus, il s'est vendu à combien d'exemplaires
ça? Alors ça, Bernard Campiche peut le dire.
Monsieur Campiche est là.
Monsieur
Campiche. Voilà.
Combien d'exemplaires ça a été vendu?
À peu près.
Vous avez retiré, hein?
Il y a eu un deuxième tirage, hein, c'est ça? Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis une adaptation en court-métrage.
Alors
c'est
voilà,
ça,
il y a un court-métrage qui a été réalisé. Qui porte le nom, c'est un... Alors là, c'est aussi, ça pose une question de droit d'auteur. Un jour, on m'invite, une dame vient me chercher à la garde-robe, elle me dit, voilà, il y a un film qui a été fait sur ce court-métrage. C'est M. Jean-Marie Straub, qui aime beaucoup les courts-métrages. Lui, il vous résumerait Proust en 25 minutes. Mettons en 30 minutes. Hein. Et alors, c'est... Bon, on m'avait rien demandé, hein, au point de vue des droits d'auteur, rien du tout. Je vais, et puis c'est vrai qu'il se présente, et puis il a toute une carrière derrière lui. Hein. Mais c'est vrai que c'est un minimaliste. Mmh. Alors, le film, il fait 17 minutes 30, mais en même temps, il était aux journées cinématographiques de Soleure. Mmh. Il a été, l'année passée, il a reçu un prix à Locarno pour le Festival du film, mais justement pour l'ensemble de l'œuvre.
Voilà.
Donc c'est quelqu'un qui est très estimé, mais vraiment, il ne faudrait pas lui demander de faire de la mise en scène. C'est vraiment, c'est la lecture du texte entre l'île de l'harpe et la pointe d'Alaman.
Voilà.
Hein? Et puis, ben, ce qu'il y a de remarquable, c'est que le comédien lit... au rythme du balancement de l'eau.
Voilà.
Et ça, je trouve extraordinaire. Parce que quand on écoute ça, on se balance.
Mais oui.
On est sur un bateau.
Et puis, il a été passé à la télévision aussi? Ou c'était une production de
Non, il y a eu le 8 janvier l'année passée, il y a eu une, une grande bastringue au Capitole, là, c'est dans le cadre de la Cinémathèque,
voilà.
Parce qu'on présentait l'ensemble de son œuvre.
D'accord.
Alors là, c'était assez intéressant. Bernard Campiche était là, et puis les gens se sont un peu... Il a vendu pas mal de bouquins, il était content.
Bien sûr. Ouais, j'en profite pour dire qu'il y aura les ouvrages aussi de Janine Massard qui sont à disposition si jamais après, si quelqu'un veut en acheter. Donc Monsieur Campiche est venu vous accompagner pour ça. Merci.
Alors, on passe à
Alors, on passe à Question d'honneur, qui est votre dernier livre en date, qui est paru l'année passée, je crois, ou il y a deux ans. L'année passée.
Ouais.
Je ne sais plus.
Alors, question d'honneur. On est en 1945 et l'atmosphère en 1945, c'est ça. C'est que dans le pays de Vaud, on a terriblement peur des rouges parce qu'aux élections de 1945, la gauche et l'extrême gauche, c'est-à-dire les socialistes et les popistes, ont raflé pratiquement tous les sièges dans la municipalité. À la municipalité, que ce soit à Lausanne, à Nyon, je crois même à Châteaudet, tout d'un coup, une espèce de vague rouge qui arrive. Et dans les campagnes, c'est Staline dans nos vignes. Hein. Alors on se resserre autour du système, c'est-à-dire l'Église, l'État, l'école.
Voilà.
Hein. Et puis les représentants de l'Église, l'État, l'école, c'est le pasteur, l'instituteur, puis le syndic. Mais le syndic est souvent dans les caves. Hein, donc, Mais enfin, on se tait. Surtout, c'est la loi du silence. Alors, c'est l'histoire que je raconte. C'est une histoire qui m'a été racontée par une personne qui est, curieusement, au moment, le lendemain du jour où elle a raconté cette histoire, elle meurt. Elle a dû assister à une scène, et bien elle n'a jamais pu en parler. C'était une mise à mort d'un bébé que portait sa sœur. La sœur n'avait rien osé dire. Puis dans les bals de village, et de toute façon, la mentalité de l'époque était telle que si une fille se faisait violer, même par trois gaillards solides, c'était elle la responsable, l'avait provoqué. Ouais. Et moi, on m'avait dit, ma mère était convaincue que c'était... une fille qui ne le veut pas, elle ne peut pas, on ne peut rien lui faire. Donc, comme si on avait des forces de boxeur, alors qu'on devait vivre soumise, n'est-ce pas? Alors voilà, donc il y a tout ce contexte qui fait que lorsque la fille d'un instituteur se trouve enceinte, c'était à la suite d'une fête de village, probablement qu'elle ne sait pas. Elle a dû être. On a dû la saouler, enfin lui donner un truc à boire. Puis elle n'ose rien dire, elle ne sait pas ce que c'est, parce qu'on ne parlait pas de ça. Hein. Moi, je crois qu'il y a quelques personnes ici qui se rappellent cette époque. On n'en parlait pas. Alors, à force de ne pas en parler, tout d'un coup, le père et la mère s'aperçoivent que le ventre gonfle, et puis ils se rendent compte qu'elle est enceinte, et comme elle fait l'école normale parce qu'un père instituteur, il a des enfants, surtout si c'est des filles, les filles, elles sont institutrices. Elle fait une formation d'institutrice. Et alors, il faut trouver un moyen. Ils vont faire ça, un accouchement dans la nuit, et puis après, ils vont tuer l'enfant. Et c'est quelque chose qui a été... La personne qui l'a raconté, c'est la cadette qui, entendant du bruit, même si c'était assourdi, parce qu'il ne fallait même pas crier, hein, est descendue, puis on ne l'a pas entendue, puis elle était sous un meuble, puis elle guettait, puis elle ne savait pas vraiment... C'est plus tard qu'elle a compris. Donc, elle a gardé ça toute sa vie, parce qu'il ne fallait pas en parler. C'était le silence de l'époque, mais à mon sens, en relation avec tout ce climat, guerre froide, il ne fallait pas parler de ceci, il ne fallait pas parler de cela, tais-toi, arrête de parler, etc., une fille parlant de sexualité, je peux vous dire que c'était... Il ne fallait pas demander aux parents, à sa mère, comment venaient les enfants. Hein. Donc, vous voyez, il y avait une espèce de chape de plomb. C'est assez curieux, quand même. Hein. Mais enfin,
Alors, donc, justement, ce personnage, vous dites... cette cadette, elle aurait eu quel âge, à peu près
Pratiquement un an de plus que moi, quelque chose comme ça.
Donc elle aurait eu 8-10 ans, un truc comme ça.
Je pense que c'était avant le collège. Parce que déjà, après, elle a toujours eu un comportement anormal. Souvent, elle se faisait moquer d'elle. Elle était intelligente, mais en même temps, elle était toujours comme ça. Elle se méfiait de tout le monde. Elle était...
Ouais, donc vous faites un lien, en fait, entre cette vision qu'elle ne pouvait pas s'expliquer et peut-être ses problèmes psychologiques,
tardifs. Et moi, je me dis que c'était le silence de l'époque. Et puis, par exemple, quand son père a été à l'hôpital, il avait fait un AVC. Bon, il est mort. Après, il est mort assez jeune. Hein, il n'avait pas terminé en fin de cinquantaine. Elle n'osait pas aller le trouver toute seule. Alors elle allait soit avec une copine, moi j'y suis allée une fois, soit avec, elle envoyait une copine pour trouver le père.
Voilà.
Mais il ne pouvait plus parler.
Ah ouais.
C'est comme si la parole lui avait été coupée. Est-ce que lui-même, puis lui-même, pour lui, ça a dû être... C'est quand
même
des
gens qui avait conscience. Donc
conscience, il représentait quelque chose, et puis voilà. À part ça... Il y a une dame qui est venue sonner à ma porte un jour. Elle m'a dit, madame, dédicacez-moi votre livre. Je l'ai fait lire à tout le monde autour de moi, dans le village où j'ai grandi. J'ai connu 3 cas comme ça.
Ouais, c'est faux. Hein.
Donc, vous voyez, ce n'est pas une exception. M'a dit, ce livre, ça remet les choses en place.
Ouais.
Parce que justement, ça montre... Parce qu'en plus, comme je vous dis, les femmes culpabilisaient.
Ouais, oui.
Hein? Alors, voilà. Ouais, c'est... passe des choses étonnantes.
Et bien alors, donc vous avez...
À part ça, je pense qu'aujourd'hui, en pays musulman, il doit y avoir aussi des choses comme ça.
Sitôt qu'il y a un interdit, hein, c'est toujours.
Dès qu'il y a un interdit, ouais.
Et donc vous êtes, alors maintenant, vous êtes en train de travailler sur
quelque chose que j'aime.
Alors racontez-nous votre nouveau projet.
Alors, ma grand-mère voulait voir la mer. Elle avait. Il y a déjà quelqu'un qui rit. Elle avait à peu près... Elle était, vous savez, à cette époque, on mourait beaucoup plus jeune que maintenant. On durait moins longtemps. Elle devait avoir une septantaine d'années. Puis elle ne voulait pas aller... Parce qu'il y avait des cars qui partaient. Il y avait des trucs touristiques. Alors, ils faisaient 2 jours au bord de la mer. Mais elle m'a dit, non, moi, je ne veux pas. Je ne veux pas aller avec ces trucs en groupe. C'est moutonnier. Je veux aller avec toi. Et puis on ira une semaine, et puis c'est toi qui me guideras et tout, enfin bon. Alors, moi, je gagnais bien ma vie dans les régions horlogères à l'époque. Alors, je peux vous dire, hein, ça, non seulement il y avait du boulot, mais alors il était vachement bien payé. Et en comparaison du canton de Vaud, notre banquetin de Vaud, comme disait Gilles. Ouais, alors, j'étais là-bas, et puis je lui ai dit, écoute, on va faire un projet. Alors bon... J'étais secrétaire d'un avocat, et puis mon chef, il avait été en vacances à Golfe-Juan pendant les vacances avec sa famille, puis il m'a donné une adresse. J'ai écrit, puis il me dit, vous devrez peut-être donner des arts. Puis j'ai dit, ouais, mais voyez, la réponse, elle ne me demande pas d'art. Ah, c'est bizarre, mais enfin bon, peut-être parce que c'est hors saison. Puis alors, bon, on fait le voyage avec ma grand-mère. Alors, on passe par Milan. Alors, Milan, et puis on se cognait contre l'histoire. Parce que quand on arrivait à Milan, elle me dit, « Ah, mon Dieu, quelle horreur! J'ai l'impression de voir Mussolini pendu par les pieds avec la petacci. Puis après, on arrive, on passe par Gênes. Elle n'a pas voulu prendre de couchette pour la nuit. Alors, je peux vous dire, j'ai eu peur qu'elle meure. Elle était blanche le lendemain matin. Elle a quand même pu s'allonger pour un peu, mais vous voyez, c'est pas vraiment. Et on arrive à Gênes, après on longe la côte Ligure, et puis on arrive à Golgio. Et puis là, je donne mon adresse à un chauffeur de taxi. Il me dit je ne sais pas comment ça se passera. Je reste avec vous, hein, parce que... Puis je dis, parce que quoi? Et puis, il y avait un bateau des forces de l'OTAN. Il y avait les forces de l'OTAN qui surveillaient la Méditerranée à cette époque. Hein. Je les ai découvertes quand je suis arrivée. Parce que... Pardon? C'était 61 ou 62. C'était en fait... D'abord, il y avait la guerre froide. Il y avait eu Nasser qui avait chassé Farouk. Il y avait la guerre d'Algérie, Et puis il y avait encore en France De Gaulle qui était au pouvoir, mais surtout les communistes qui étaient très forts. Ils faisaient très peur aux Américains. Alors ils restaient là, ils surveillaient la Méditerranée. Je vous dis, dès qu'on sortait de Suisse, on se cognait à l'histoire. Ben, ça a commencé par la Petacci avec son Mussolini. Donc on arrive là. Et puis le chauffeur me dit, bon, écoutez, mesdames, je vous accompagne et je reste à côté de la voiture au cas où. Puis j'ai dit, moi, au cas où quoi? Et j'arrive avec ma lettre de confirmation. Puis la dame me dit, vous n'avez pas versé d'art, ce ne sera pas possible. Je dis, mais vous ne m'avez pas demandé d'art. Foutez le quinque, elle me dit. Et puis le chauffeur nous tire. Elle dit, mais ma grand-mère était blanche, j'avais peur. Et puis elle nous tire en arrière et puis on remonte. Puis alors effectivement, alors après on était dans un endroit magnifique avec des gens, ils avaient une cour intérieure pleine de fleurs, c'était superbe. Et ils faisaient une bonne cuisine et on était là. Et on a su qu'en fait, quand il y avait un, parce qu'il y a, bon, il y avait des endroits comme Nice, Cannes, Juan-les-Pins, puis il y avait aussi Toulon, où il y avait des bordels. Ils avaient ouvert des bordels. Mais à Golfe-Juan, c'était une sorte de village. Alors, quand il y en avait un, bon, ils avaient la délicatesse de ne pas mouiller en été. Hein, mais il y avait juste un bateau. Alors, les petits hôtels se transformaient en hôtels de passe pour les marins.
Pour rentabiliser le mètre carré.
Alors, puis ils faisaient de bonnes affaires. Donc... Alors moi, je me souviens que ma grand-mère, quand on passait, parce qu'on s'est promené un peu dans le village, puis on voyait un hôtel au volet fermé. Me disait, mais qu'est-ce qu'ils leur font, ces pauvres françaises? Mais qu'est-ce que... Elle qui avait idéalisé la France, parce qu'elle était, son père avait traversé du côté du Loc là, pour il était horloger, puis il avait travaillé, donc elle avait grandi là, donc elle se sentait un peu française, mais là alors elle plaignait les françaises, elle trouvait que c'était affreux, mais enfin quand même c'est pour française.
Mais enfin, elle a vu la mer
et même on s'est baigné dedans, et puis elle a compris aussi qu'elle avait fait une ânerie pour l'aller. Alors au retour, on a passé une nuit à Milan, elle a vu le dôme, et puis surtout elle a beaucoup aimé le bleu de la mer, contempler la mer. Puis comme elle habitait Rolles et qu'elle allait beaucoup au bord du lac, au château, elle était là, elle s'imaginait la mer, puis après, après avoir vu la mer, elle continuait elle changeait, elle, si vous voulez, elle adaptait les couleurs de la mer à ce qu'elle avait vu.
Voilà.
Et puis voilà, donc c'était. Alors, est-ce que j'ai le temps de vous lire le.
Ah oui.
Alors, depuis que Lynn, la petite fille de Claire, avait passé 2 mois au bord de l'océan en qualité de monitrice de colonie de vacances, 3 ans déjà, mon Dieu, comme le temps passe, soupirait sa grand-mère, qui, quelques années après la mort de son mari, s'était mise en tête de voir la mer. Ce souhait avait habité son esprit à la manière d'un rêve, puis elle avait compris que ce quoi? Un songe? Un souhait? Un vœu? Non, c'était une impatience, la sienne, celle de voir la mer, et qu'elle devait se transformer, devenir réalité, pendant qu'elle le pouvait encore, et en plus que cela ne prendrait corps qu'avec Lynn, naturellement douée d'un esprit d'indépendance qu'elle admirait, même s'il irritait Marthe, sa mère, ce qui ne déplaisait pas forcément à Claire, qui s'amusait de l'entendre grincer des dents pour manifester sa contrariété. Donc, pour ne pas barboter dans le songe, elle ne voyait personne d'autre que cette gamine qui débordait d'audace pour le transformer en réalité. Elle ne redoutait pas de lui en parler, parce qu'elle savait d'avance qu'elle comprendrait sans peine qu'il n'était pas question que sa grand-maman entreprenne des démarches auprès d'une agence de voyage. Rien que l'idée de se bagnauder en groupe la révulsait. C'était trop moutonnier, ce genre de transhumance l'horripilait. Partir et pérégriner avec cette petite qu'elle avait vue s'éveiller au monde, voilà ce qui l'intéressait. Et ça la rajeunirait. À son âge, elle en aurait besoin. Il lui arrivait de sentir de temps à autre monter en elle une forme d'envie, mêlée de jalousie à l'égard de ces jeunes de la génération de Lynn et de la liberté qui leur était donnée. Elle, qui avait été bridée par les contraintes de son époque, préparer un trousseau, l'orner de broderies diverses, obéir au doigt et à l'œil et approuver sans polémiquer.
Alors, voyager avec Lynn lui permettrait de relier le présent au passé et d'apprécier ce que certains nommaient l'évolution. À son âge, c'était permis. Mais malgré ses certitudes et sa soixantaine finissante, Claire connaissait ses limites. Des fourmillements dans les jambes lui faisaient comprendre qu'il ne fallait pas trop tarder avec la mer. La mer et non l'océan, trop froid pour elle, et trop rude les vagues qui l'auraient jetée à terre. Un jour, elle a dit d'une voix douce, grand-mère qui raconte une jolie histoire à sa petite fille. « Oui, ma chère Lynn, ce que tu me dis de tes voyages me passionne, mais j'aimerais que ton prochain départ se fasse avec moi, parce que je sens que pour moi, tout commence à se ralentir et à se rétrécir aussi. Tu sais que j'aimerais tellement voir cette belle Méditerranée, et surtout cette côte d'Azur, dont on vante tant le charme et la lumière. J'aimerais m'imprégner de son climat, si bénéfique pour calmer les douleurs de l'âge. Ce serait une manière pour moi de faire quelques petites provisions pour l'hiver, ajouta-t-elle avec un petit sourire en coin. Elle avait exprimé cela au moment où, une fois de plus, la gamine allait s'évaporer dans les terres avec son sac à dos. Claire savait qu'elle monterait dans un de ses trains de nuit qui lui permettrait de traverser une partie de l'Europe pour la déposer 2 jours plus tard en Grèce ou au bord de la mer Noire. Tant de liberté et d'aisance la fascinait, la faisait barboter dans la convoitise. Barboter, mais on fait ça dans l'eau, décidément, son envie de mer l'embrouillait. Lynn avait beau lui dire qu'elle pouvait difficilement prendre des vacances quand elle le voulait, l'été était un bien mauvais moment pour sa chère grand-maman. Trop de monde dans les trains, trop de chaleur en Méditerranée. À son âge, ça pouvait s'avérer dangereux. Qu'elle patiente encore un peu, elle trouverait bien une solution. Mais malgré ses arguments qui lui semblaient appartenir au domaine de la finasserie et de la mauvaise foi, l'idée tournicotait dans la tête de Claire qui estimait qu'elle était en pleine forme. Elle imaginait une eau bleue qui parfois tirait sur le verre qu'elle lorgnait, paupières mi-closes, par une fenêtre ouverte ou même de sa cuisine. Elle s'en imprégnait à tel point qu'il lui arrivait de l'apercevoir de sa fenêtre. Oui, c'était bien l'eau qui ondulait sur une surface de sable doux. Passait, disparaissait, puis se cachait dans les tréfonds de sa mémoire pour ressurgir en force. Elle n'osait parler de ses visions à personne. Pas même à Lynn, de crainte de passer pour une illuminée. Parfois, et si elle était seule, elle esquissait un pas de valse pour rendre pour elle cette douceur méditerranéenne, telle qu'elle se la figurait. Pour que son vœu le plus cher s'accomplisse, pour rappeler en quelque sorte la réalisation de ce projet, elle marchait tous les jours allègrement jusqu'au bord du lac. Si les reflets étaient bleus quand brillait le soleil de l'été, elle se persuadait alors qu'il y avait de la ressemblance avec cette mer tant désirée, même s'il manquait aux eaux lémaniques une grande plage de sable, et dans ses bordures des palmiers, ces arbres qui la faisaient rêver, ou encore ces grandes terrasses où l'on buvait du champagne, assis non loin de couples élégants, et riches, comme on en voit rarement, là où elle vivait. Elle cultivait une nostalgie belle époque, se plaignait de la petitesse de la Suisse, s'impatientait parfois de constater que sa petite fille ne comprenait pas pourquoi grand-maman Claire ne pouvait pas partir seule, comme elle, la petite Lynn. Et la jeunette émettait un soupir légèrement agacé, lui faisait remarquer qu'elle appartenait à la génération menace atomique qui voulait profiter de la vie avant que des pantins allumés ne s'amusent avec leurs jouets dangereux. Elle les croyait capables de tout. Et c'est vrai que c'était très fort à l'époque. Indépendamment de la différence d'âge, il leur était parfois difficile de trouver un terrain d'entente sur tous les points, parce que l'atome ne connaît pas les frontières et ne provoque pas les mêmes dégâts qu'un tank ou un canon. Malgré ses taquineries, anodine finalement, Claire admirait en elle cette jeunesse décontractée qui dansait le bebop, trouvait facilement du travail, gagnait suffisamment d'argent pour aller vagabonder dans le monde sans se soucier du climat de méfiance qui régnait un peu partout, alors qu'une partie de la population, la presse et les principaux partis politiques suisses avaient peur de ces soviétiques qui voulaient envahir l'Europe en tant des temps, et beaucoup y croyaient. Face à l'informulable, quel sens donner au mot « compréhension entre les générations » Quand Lynn revenait pimpante et bronzée de ses voyages, l'aïeul saisissait le sens profond du verbe « envier » et celui de « jalouser ». Elle avait l'impression que la gamine en rajoutait chaque fois qu'elle lui parlait de la mer, de son horizon infini autorisant les rêves, tous les rêves même, comme pour lui faire envie. Mais impossible d'interrompre ce flux continu qui virait à l'obsession. Et quand Lynn parlait de ces navires qui parcouraient les océans, se doutait-elle que cela déclenchait chez sa mère grand de drôles de démangeaisons. Claire avait beau savoir qu'elle ne pourrait jamais partir toute seule comme cela. Elle avait compris encore qu'elle ne connaîtrait en aucun cas cette forme de liberté. Et la conséquence en était qu'il ne restait plus qu'à lui soupirer en ronchonnant « Patience, patience !»« Tonnerre, mais cela fait des années que j'existe dans la patience !» Toutefois, face à l'indépendance de la jeunette, elle refusait de se transformer en vieille barbe, refusait encore de se plaindre à haute voix, et la félicitait de son audace. Heureusement, elle partageait avec Lynn un solide esprit d'indépendance, même si elle n'avait jamais pu l'extérioriser. Elle persistait, par exemple, dans son refus d'envisager d'autres solutions, comme de recourir à une agence, ainsi que le lui répétait sa voisine bienveillante de la porte d'à côté, adepte de Darby, et qui priait fenêtre ouverte pour que ses paroles soient portées par les oiseaux jusqu'à Dieu. Elle le faisait à voix haute, en claquant des dents, à moins qu'il ne s'agisse d'un dentier mal ajusté. Claire ne le saurait jamais avec certitude, mais cette petite scénette lui apportait la preuve qu'elle profitait encore d'une bonne ouïe, et à son âge, c'était pas mal. Encore fallait-il suivre le conseil de la dame Darby, se demandait-elle, quand elle sentait que l'envie de voir la mer provoquait en elle des démangeaisons. Mais comment s'imaginer voyager en autocar avec des gens qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qui utilisaient ce moyen de transport par peur de l'étranger, prononcé étranger. Elle y avait réfléchi longtemps, en soupirant, puis ces mots étaient sortis de sa bouche, tout seul ou presque. « À d'autres, madame, mieux vous rester chez soi et aller s'asseoir sur un banc près du château, parce que la lumière lémanique vous fait aussi rêver. Ce qui ne manque au léman, c'est le lointain. » Oui, c'était bien elle qui avait répondu cela avec force à la bigote, le jour où elle avait un peu trop insisté sur ce type de voyage. Et puis, au bord du lac, et malgré les montagnes qui le bornent quand il faisait beau, elle avait suffisamment d'imagination pour se raconter des histoires de mer quand il faisait beau. Sauf qu'il lui manquait un vrai navire se profilant de temps à autre dans le lointain. Mais de là où elle était, elle ne distinguait en été que des montagnes vertes et quelques maisons aussi, parce qu'ils étaient, telles étaient les limites du Léman. Elle était réaliste. Il lui manquait la vraie mer. Et têtue aussi. Elle avait besoin de la jeunesse de Lynn pour la lui faire découvrir. Voilà, c'est le premier chapitre.
On se réjouit de le lire. Il alors, est prévu pour quand, celui-là?
On demande à M. Campiche.
Non. La date de parution, on sait plus ou moins quand ça sera?
Septembre?
Mi-août.
Mi-août.
Mi-août. On livre sur les quais.
Ah, super.
Parfait, alors. Ah, ben, c'est voilà. Parfait.
Non, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé écrire, parce que, justement, il me rappelait cette grand-mère que j'aimais bien. Et puis, en même temps, de voir son étonnement. Mais il y a quand même tout le fossé générationnel entre elle et moi. Hein. Alors, par moments, elle trouve bien, puis d'autres fois, elle trouve que je vais trop loin. Hein. Donc, c'est ben, elle était bien... Ouais, mais enfin, bon, c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui a dû vivre bridé et tout, mais qui était...
Des difficiles.
Des années difficiles. Donc, voilà, c'est je trouve intéressant.
Ah oui, puis c'est drôle.
Ouais.
C'est fantastique.
Voilà. Alors, je vous remercie.
Est-ce qu'il y aurait des questions? Vous pouvez profiter. J'ai une massard. Monsieur Gérald Bloch.
Oui. C'est un souvenir un peu confus, parce que j'ai l'impression d'avoir lu un roman... Vous n'avez pas parlé de tous vos romans aujourd'hui?
Non, pas de tous.
Parce que j'ai le souvenir d'avoir lu un roman qui fait référence à l'Allemagne...
Oui, c'est...
De la dernière guerre, avec
oui,
des références à votre...
allemand, voilà.
Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oh, ben écoutez, là... Bon, c'est un roman que j'ai fait, Ouais, l'Allemagne... C'est une partie de la famille de mon mari est allemande, et puis
L'oncle, le frère de ma belle-mère, avait été dans les SS. Et puis effectivement, le souvenir, personne ne voulait parler. Mon mari, quand il était tout jeune, puis qu'il allait dans la famille allemande pour essayer d'apprendre l'allemand, il disait, mais ils s'enfermaient avec d'anciens SS, puis ils buvaient des bières en se racontant leur guerre. Puis en même temps, on ne voulait pas en parler. D'ailleurs, une fois, sa sœur, ma belle-mère, était persuadée de l'innocence totale de son frère. Il n'avait jamais rien fait de mal. Partout où il avait passé, on l'avait regretté. Donc. Mais en même temps, quand il y a eu, j'ai trouvé une photo de lui. Je suis allée au musée juif. On a parlé, vous savez, des massacres d'Ukraine. Et j'ai vu dans un livre, je l'ai laissé aux archives maintenant, j'ai donné aux archives, on voit très bien, il y a une image d'un grand gaillard tout mince qui lui ressemble, puis ils avaient la croix gammée, vous savez, le brassard, plus encore la croix gammée par-dessus. Donc c'était les Tourudes, quoi, les SS. Bon, et c'est vrai qu'il a été embarqué, il avait peut-être 15-16 ans dans l'histoire, hein. Donc, mais en même temps, c'était cette chose que j'ai voulu reconstituer. C'est vrai que c'est assez rude, mais en même temps, il y a quand même des gens qui ont dû vivre des choses comme ça. C'est toujours. Ben voilà, on est de nouveau dans le silence. Hein? Chez nous, c'était dans les villages, c'était le silence parce qu'on avait peur des rouges. Et puis, ceux qui sont revenus de la guerre, il y en a qui ont commencé à parler, ils avaient 80 ans, des anciens qui ont survécu. Mais lui, il est mort assez rapidement. Il a eu. Parce qu'en même temps, c'était. Il est mort d'un cancer. Et à 47, 48 ans. Donc il n'a pas pu. Mais c'est vrai qu'il y en a qui disaient. Qui s'étonnaient des anciens nazis qui disent. Mais des anciens SS qui disent. Mais finalement, on se rend compte maintenant que c'était monstrueux ce qu'on a fait. Mais on était très jeunes. On ne connaissait rien d'autre. Donc voilà. C'est ce parcours brisé. Qui a été brisé par la maladie. Et en même temps, quand on est SS et puis qu'on a la croix là, on ne peut pas avoir fait partie des archanges accuroses de la guerre, n'est-ce pas, hein, c'est ça le problème. On n'était pas un archange, on était vraiment. C'était les féroces, hein, ceci.
Alors sur ce roman, moi j'avais noté justement, parce que ça parle de cette femme allemande, Heide, qui oui. s'installe en Suisse, qui crée sa famille.
Alors voilà, la mère a été la seule. La mère de ce, elle a été la seule à deviner que Hitler était un mauvais bougre, pour une raison très simple, c'est qu'elle s'était aperçue, parce que on l'a su plus tard aussi, c'est que avant de tuer des juifs, les nazis, pour avoir de la place pour leur chef haillon, ils ont commencé par exterminer des vieux, des gens âgés. Et elle avait des amis âgés qui avaient un très bel appartement dans une hauteur, dans une maison, ces belles maisons. Et un jour, ils ont disparu. Puis c'est une famille de SS qui est venue. Elle ne les a jamais retrouvés. Elle avait un nez, elle a compris qu'il n'y avait pas d'espoir avec ça. Alors elle est venue, elle avait marié sa fille en Suisse. Elle était contente de pouvoir caser sa fille en Suisse parce qu'elle l'a mariée, elle était très jeune. Hein. Elle l'a mariée à un médecin en Suisse ou un notaire, je ne sais plus. Et puis, elle est venue, elle a embarqué son. Elle a réalisé son petit peu d'or, elle l'a mis comme ça sur son sac, puis elle est venue depuis Munich jusqu'à Zurich. Puis après, elle est allée. S'installer dans la maison. Bon, le mari n'était pas très content, mais il ne pouvait pas la renvoyer. Et alors, on a su, parce qu'il y a eu un film que j'ai vu, on a su que les SS, les premières heures allemandes, ça a été dirigé contre les gens âgés. Ou alors, on a su les enfants normaux. Hein? Ils les ont bazardés. Et là, c'était. C'était assez étonnant de voir cette femme qui, tout d'un coup, elle réalise. Plus c'était une Allemande qui n'a jamais rien pensé de bon d'Hitler. Elle a toujours su que c'était louche. Puis son fils était dans la SS et ça l'a beaucoup dérangé aussi.
En tout cas, dans ce roman, j'ai beaucoup aimé le parallèle que vous faites, parce que le titre, l'héritage allemand, en fait, c'est à la fois évidemment historique, mais aussi social et génétique.
Puis génétique, alors.
Voilà. Parce que c'est une famille, au fond, qui est rattrapée par ce destin passé qui n'était pas très reluisant. Et puis, il y a un parallèle qui est fait.
Il faut dire, justement, comme ma fille, à l'époque, faisait était étudiante, puis on parlait beaucoup de génétique. Et puis, évidemment, le cancer, c'est une transmission génétique, bien sûr. Mais en même temps, les cancers qu'il y a eu dans la famille, je vous ai dit tout à l'heure, mon mari et ma fille, c'était des cancers qui venaient... Dans notre famille, il n'y en a pas eu. Donc, la génétique...
Elle n'explique pas tout,
mais disons ça. C'était remonté, parce que, j'étais aussi convoqué par un médecin qui disait, mais dans votre famille, il n'y a pas de cancer, je ne dis pas à ma connaissance. Puis après, en remuant, parce qu'il disait, c'est quand même une transmission. Puis je me suis dit, mais là, c'est le côté, ils sont venus d'Allemagne.
Voilà.
Puisque les deux enfants de sa sœur, donc la sœur de ce SS, donc en Suisse, ils ont un cancer. Tant ma belle-sœur, elle a aussi un cancer, puis... Donc, il y en a qu'on peut soigner, on peut vivre longtemps avec, puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas soigner.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est vrai que cet héritage allemand, c'est une sorte de double vision, si vous voulez. C'est à la fois la transmission génétique, puis ça, c'est... Bon, de toute façon, il y a aussi des vieux SS qui ont certainement été des ordures, puis qui ont 93 ans, 94 ans, puis qui se portent bien.
Ça.
Puis qui trouvent probablement qu'ils regrettent Hitler, mais ils veulent pas le dire.
Ouais.
Mais c'est vrai que moi j'ai entendu une fois ma belle-mère dire, les Allemands sont en train de regretter les nazis. Donc c'était par sa famille. Elle est venue très jeune, parce que sa mère avait un nez extraordinaire. Puis quand elle a compris qu'on pouvait rien attendre de ce qui se passait, elle a placé sa fille en Suisse pour apprendre. Puis elle l'a carrément mariée à un médecin. C'est quelque chose que j'ai écrit, moi, dans l'urgence, pour peut-être m'expliquer la transmission génétique qui collusionnait avec l'histoire. Puis comme j'adore l'histoire, je trouve qu'on trouve beaucoup de clés.
Les histoires
de l'histoire.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, ça va. Alors, on va passer à la partie Boostify, alors, c'est ça?
Merci de votre accueil.
Merci Janine.
Merci.